Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 avril, vous êtes sur Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et en podcast sur notre site radiocampusamiens.fr. Pour cette nouvelle émission, je suis en compagnie de Benjamin et Colline. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Oh waouh, c'est calme comme voix. C'est dur ce matin, non?
Ce midi.
Ce midi, ce matin, c'est la même chose. Dans ce studio, on n'est pas seul, puisque Colline, aujourd'hui, tu reçois Léa Martin de la Maison du Théâtre d'Amiens et Guillaume Lambert, artiste résident.
Tout à fait, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Léa, on ne te présente plus. Hein. Aujourd'hui, on va parler résidence d'artiste.
Oui.
Et résidence d'artiste à la Maison du Théâtre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une résidence d'artiste ?
Alors, les résidences d'artistes, c'est du soutien à la création, c'est du soutien aux artistes, aux compagnies. Ça fait partie du projet de la Maison du Théâtre, ça a toujours été dans l'ADN de la maison. Ça a continué depuis l'arrivée de Jérôme Salé. Concrètement, les résidences d'artistes, c'est des temps de recherche qu'on accorde aux artistes. C'est pas juste une mise à disposition de salles, c'est un moment où les artistes vont pouvoir... travailler sur une étape de travail, faire de la recherche, que ça peut se traduire sur un travail d'écriture, ça peut être de la création plastique, ça peut être du plateau. Mais c'est un moment où les artistes vont être payés pour ce temps de recherche. Donc ils ont notamment le lieu, la salle, c'est aussi du soutien humain, du soutien technique, matériel. Et voilà, ils sont logés, payés pour travailler sur une création future.
Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez plusieurs artistes par moment en résidence en même temps? C'est un artiste ou une artiste par période? Comment ça s'articule?
Alors oui, on peut avoir plusieurs artistes en résidence en même temps. C'est le cas cette semaine. Donc on a Guillaume qui vous parlera de sa résidence plus en détail après. On a aussi la compagnie Chamard Belle Clochette. Donc c'est des artistes suisses qui jouent la semaine prochaine, qui jouent un spectacle jeune public qui s'appelle Robot. Et là, ils sont en résidence sur la suite de ce spectacle, donc Boom Tchak. Et voilà, là, ils partagent les lieux cette semaine.
Et combien de temps ça dure? Est-ce que vous avez des périodes? C'est-à-dire, est-ce que ça dure 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois?
Alors, ça dépend, parce qu'on a différents types de résidences. Par exemple, là, je parlais de la compagnie Chamard Belle Clochette. Ils sont là cette semaine et la semaine prochaine, c'est pour parce qu'ils vont jouer le spectacle. Donc ça se colle un petit peu au spectacle qu'ils vont jouer la semaine prochaine. Mais dans le cas, par exemple, de Guillaume Lambert ou d'Anne-Laure Tumerel, qui sont nos deux artistes associés de cette saison et depuis la saison dernière, là, on est plutôt sur des résidences longues. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 3 mois de suite à la Maison du Théâtre en train de travailler, mais ils vont bénéficier de plusieurs temps de recherche, de travail pendant ces deux saisons-là.
En quoi c'est important à la Maison du Théâtre de recevoir des artistes en résidence?
C'est important pour nous puisque c'est un moment, surtout dans le cas par exemple d'Anne-Laure et de Guillaume. Anne-Laure, je vous parlais depuis tout à l'heure, mais vous avez peut-être pu la voir pendant Féminis Futures à la MCA avec Next Autopsie d'un massacre amoureux. C'est important puisque ça permet, dans leur cas, en tant qu'artiste associé, là, on est vraiment sur des ouvertures publiques pendant leur temps de résidence qui sont en fait comme des spectacles. En soi, c'est pas juste un petit bout du spectacle qu'on verra plus tard quand il sera créé. C'est quelque chose qui va vraiment nourrir la création future. Et on ouvre la billetterie, on ouvre la salle. Là, dans le cas de Guillaume, ce sera dans l'espace public la semaine prochaine. Mais c'est important puisque tous ces temps-là où le public peut venir découvrir leur travail, ça permet de faire connaître les artistes. De suivre leur travail et de donner envie de revenir et de les suivre dans ce qu'ils font. Et c'est aussi un peu une prise de risque pour nous, mais voilà, ça nous fait plaisir, c'est important pour nous. Et notre salle se prête bien à ça aussi. Si on avait une salle de, 600 places, peut-être qu'on ne prendrait pas ce risque, mais là, on a 125 places et du coup, le soutien à la création et l'artistique est très important pour nous.
Justement, je me tourne vers toi, Guillaume, tu vas présenter la Méni Elkin. Mon nouveau spectacle.
Ouais,
du coup.
C'est ça.
Alors avant qu'on entre un peu plus en détail sur le projet, toi, en tant qu'artiste résident, qu'est-ce que ça t'apporte?
En fait, les résidences, c'est essentiel pour notre fonctionnement dans le spectacle vivant parce qu'en fait, On est, enfin, moi, souvent quand je raconte mon métier, on me renvoie souvent un peu la question de dire, mais vous êtes une troupe, enfin, comment vous fonctionnez, est-ce que vous faites tous vos spectacles ensemble, etc. On a un peu cette vision fantasmée à la Molière, quoi, qui a sa troupe qui fait le tour du milieu de France, etc. Et en fait, c'est assez rarement le cas. Il y a des troupes qui fonctionnent comme ça, mais c'est plutôt pas ça. On est plutôt en fait éparpillés sur déjà différentes villes souvent parce qu'on s'est rencontrés là par exemple les comédiennes avec qui je travaille pendant ma formation ou pendant d'autres projets. Donc on est un peu éparpillés géographiquement et puis on est un peu éparpillés aussi en termes de projets et de compagnies. Et du coup les moments de résidence c'est des moments importants parce que c'est les moments où on se retrouve tous et toutes ensemble pour travailler autour d'un futur projet. Donc c'est des temps qui sont souvent assez restreints par rapport à l'ampleur d'un projet. Voilà, un spectacle, cette résidence par exemple qu'on est en train de faire, ce n'est qu'une parmi au moins peut-être une quinzaine, voire une vingtaine qui vont arriver de durées différentes à chaque fois. C'est vraiment des moments où on arrive à avancer dans notre travail collectivement, quoi. Voilà l'importance pour nous.
Alors là, tu as donc créé la Ménie Elquin. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce projet et après, qu'est-ce que c'est concrètement ce spectacle ?
Ouais, bah du coup, justement, ce projet-là, il est assez emblématique de moi, ma manière de travailler en résidence pour continuer sur cet enjeu. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait des résidences que j'appelle un peu d'exploration, des résidences de territoire, avec cette idée d'aller chercher dans des territoires qui vont résonner par rapport à mon sujet, d'aller un peu explorer, d'aller faire des rencontres, d'aller essayer de me plonger dans certains paysages, parce que moi j'écris beaucoup avec les lieux et avec les paysages, c'est important pour moi, et du coup c'est beaucoup de temps de déambulation qui peuvent paraître un peu oisifs, mais qui sont en fait vraiment du travail d'observation, d'essayer de se sensibiliser un peu à différents enjeux. Et donc par exemple là pour la Ménie Elquin, qui est un projet qui a notamment une dimension qui concerne la chasse, en parlant avec Jérôme Salé, le directeur de la MTA, pour venir résider ici sur ce projet, c'était pas très cohérent pour moi dans une première étape de venir en plein centre de Saint-Leu, où a priori bon, la question de la chasse c'est pas vraiment le sujet numéro un. Mais il se trouve que à pas très loin d'ici, dans la Somme, il y a une baie où il y a voilà une très grosse pratique de la chasse en hutte, voilà, etc. Et du coup, il m'a dit bah vas-y, on peut faciliter, donner des moyens financiers, aussi des moyens de contact pour essayer de rencontrer des chasseurs là-bas, pour essayer d'aller découvrir un peu cette pratique depuis cet endroit. Et du coup, ça c'est plutôt des résidences de territoire où je suis pas dans le théâtre, mais en fait je travaille quand même pour nourrir mon écriture. Et après, il y a des résidences qui sont plus donc de création ou de répétition, ce que je suis en train de faire actuellement à la MTA, où là, on est vraiment à la fois dans des studios de répétition, mais aussi effectivement beaucoup dans l'espace public, parce que moi, je travaille, c'est un spectacle qui aura lieu dans l'espace public, dans des festivals comme par exemple les Tentaculaires à Amiens, j'espère. Et voilà, et du coup, c'est des moments où en fait, là, cette fois-ci, on va se retrouver à plusieurs et où là, moi, j'ai travaillé un texte, à partir du texte, par exemple, que j'ai écrit en Baie de Somme, et je le passe aux comédiennes qui essayent de se l'approprier, de le découvrir de l'intérieur. On essaye de faire des improvisations aussi qui permettent un peu de nourrir l'imaginaire des personnages ou de l'histoire qu'on est en train de raconter. Il y a aussi une dimension plus plastique, c'est-à-dire que par exemple, là, je travaille aussi avec Lise Crétio, qui est costumière plasticienne et qui est en résidence avec nous pour travailler sur les costumes, sur les masques qui auront lieu pendant qui seront portés sur scène. Et voilà, et du coup, c'est un peu tous ces temps-là qu'on est en train de mener en ce moment. Sur un projet donc qui, effectivement, comme je le disais, va pas parler de la chasse, mais en tout cas, c'est un récit qui s'appuie sur un mythe, la Ménie Elquin, qui est en fait une histoire qu'on retrouve beaucoup au Moyen-Âge et à travers beaucoup de pays européens, et qui raconte le passage la nuit, souvent l'hiver, dans le ciel, d'une troupe bruyante, qui ressemble un peu à une tempête, et qui vient s'abattre sur les paysages, et qui serait composée de revenants, en fait. Et c'est vraiment des apparitions, des gens le décrivent comme une apparition qu'ils ont vue, qu'ils ont vécue, etc., qui est assez terrifiante, et en même temps qui vient aussi renouveler un peu le monde, entre guillemets. C'est un peu comme les carnavals qui ont lieu tous les ans à l'hiver pour accueillir le printemps, quoi. C'est un peu cette même idée-là. Et du coup, moi, je reprends ce récit-là un peu oublié ou en tout cas assez poussiéreux pour essayer en même temps de raconter des choses de notre époque. C'est-à-dire que c'est, pour moi, ça parle effectivement d'une tempête qui m'évoque aussi les tempêtes climatiques, écologiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui, comme on a vécu, enfin, comme ça a été vu à La Réunion, à Mayotte. C'est aussi quelque chose qui, pour moi, parle de la mort, de l'au-delà, et du coup, d'essayer de concevoir autrement la mort que juste dans un cercueil enfermé dans un cimetière. Mais là, cette fois-ci, les morts, en fait, reviennent régulièrement dans les airs, masqués. Enfin, il y a un truc presque du carnaval, effectivement, qui est une autre vision de la mort, quoi. Et puis, il y a aussi une histoire qui est très théâtrale, parce que, en fait, c'est effectivement ce Hellequin, il a donné naissance à un des personnages les plus connus du théâtre, qui est Harlequin. Hellequin a donné Harlequin. Et du coup, je trouve que j'ai bien aimé au début de cette recherche, ce truc de cette Ménie Hellequin qui incarne les morts, les tempêtes, aurait donné naissance à un des bouffons, des fripons du théâtre. Et ce lien où justement la mort peut rire, entre guillemets, je trouve que ça incarne par ce personnage-là, quoi.
Vous êtes combien sur... Alors du coup, ça va se jouer dans l'espace public. Vous êtes combien à jouer cette pièce ?
Alors il y a trois comédiennes. Lise Crétio, donc c'est pas du tout une comédienne, pardon, elle est costumière plasticienne, j'en parlais tout à l'heure. Les comédiennes, donc c'est Virgile L. Leclerc, Élise Douillère et Marie-Julie Chalut. Trois comédiennes qui vont jouer les trois rôles principaux de ce spectacle. Et aussi une dimension importante dans ce spectacle, c'est qu'on va avoir un chœur de comédiens et de comédiennes amateurs qu'on va recruter donc dans chaque ville où on va passer, avec l'idée de les former en une ou deux répétitions maximum, et qui vont incarner un peu ce cœur de vent et de revenant, voilà, qui vont porter cette parole-là. L'idée, c'est de faire vraiment un peu comme une chorale chantée, voilà, sauf que cette fois-ci, c'est pas chanté, c'est lu à partir d'un texte. Et il se trouve que justement, on a fait des essais pendant cette résidence à la MTA, où on a fait un appel à complices, et on a fait une répétition hier soir on était une dizaine de participants bénévoles. Et du coup, nous, ça nous permet de tester, j'ai testé plusieurs dispositifs, comment ils sont dans l'espace, comment, à partir du texte que j'ai écrit, comment on peut le dire de différentes manières. Et voilà. Et du coup, ça fait que sur cette scène, on aura quand même une sensation un peu de foule. Enfin, c'est un peu l'envie que j'avais parce que c'est une troupe. Enfin, comme je le disais, la Ménie Hellequin, c'est une troupe, c'est une famille, c'est un truc assez volumineux, et je voulais qu'il y ait du monde sur le plateau, quoi. Enfin, dans l'espace public. Et puis, il y aura aussi un machiniste qui va activer une machine à vent. Donc, c'est un objet qui date en fait du 19e siècle, qui sont des machines qui imitaient le bruit du vent dans les théâtres pour reproduire des sons de tempête, justement. Et qui sont des objets assez beaux, qui sont en fait comme des moulins en bois qui frottent un tissu. Et le frottement du tissu crée ce bruit de... Enfin, ce bruit du vent, quoi. Et du coup, on va avoir aussi cet objet volumineux dans l'espace public qui sera activé par un machiniste, quoi.
Alors, ça va être joué sur le parvis de la cathédrale.
Alors ça, c'est les anciennes infos.
C'est les anciennes infos. Ah, ça a changé, alors je veux bien...
Du coup, c'est rendez-vous demain, à 19h30, à la Maison du Théâtre. Et après, c'est la surprise. On ira se promener dans l'espace public, suivre cette troupe.
C'est ça, le côté prise de risque de travailler avec des artistes en création, c'est qu'ils disent des choses à des moments, et puis ça
change.
Évolue.
Parce que j'allais dire, sur le parvis de la cathédrale, niveau vent, c'était bon. Hein.
C'est clair, c'est clair.
Comment est-ce qu'on met en scène un spectacle qui n'est pas joué dans une salle classique, j'ai envie de dire, typique de théâtre?
Pour moi, je fais les deux. Je viens plutôt d'ailleurs d'un théâtre en salle, mais j'ai eu à un moment ce besoin de sortir parce que j'ai trouvé en tout cas à l'extérieur des choses qui me manquaient à l'intérieur, et notamment le fait qu'il y a une grosse différence qui est que quand on va dans une salle de spectacle, on est dans une boîte noire, on est assis confortablement, tous nos regards visent vers l'espace de la scène, il y a une sorte de concentration de l'attention qui permet une qualité de l'écoute, du regard, de la sensation. Et quand on est dans l'espace public, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que en fait, il y a une attention qui est beaucoup plus flottante, beaucoup plus dispersée, parce que il peut y avoir des gens qui passent, il y a le vent, il y a le soleil, il y a peut-être les intempéries même. Enfin, il se passe plein de choses, et cet endroit de fragilité, moi, il m'intéresse parce que justement, je parlais des tempêtes, je parlais de la question de nos conditions écologiques qui sont bouleversées, et le faire dans la boîte noire, un peu sécurisée d'un théâtre, ça me semblait pas cohérent pour moi, en tout cas. Et donc, du coup, voilà, il y a un peu cette idée de jouer et d'accepter cette fragilité, d'accepter que peut-être le vent, à un moment, va passer. Et du coup, hier, par exemple, on travaillait dans l'espace public, justement, et puis on faisait un texte, et à un moment, il y a une volée de cloches de la cathédrale d'Amiens qui se met à sonner très, très fort. Et en fait, là, on est obligé de jouer avec ça. Et du coup, comment on vient peut-être passer au-dessus, en tout cas, essayer d'aller plus fort? Est-ce que, c'est toutes ces contraintes-là, moi, qui m'intéressent, parce que du coup, ça fait que la scène est... c'est comme un décor de cinéma, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, même au lointain. Enfin voilà, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans, quoi.
Alors, c'est joué demain. Est-ce qu'il va y avoir d'autres représentations, mis à part la partie festival ?
Oui, alors bah, d'ailleurs, je tiens à dire que ce n'est pas une représentation. Ce qu'il y aura demain, c'est ce qu'on appelle, nous, des sorties de résidence. Donc, c'est-à-dire que le spectacle, en fait, il sera créé. Donc, c'est vraiment sa première date. Ce sera en octobre 2026. Et du coup, nous, en fait, c'est important justement pour tester comment le spectacle il marche déjà, est-ce qu'il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, etc. On fait ce qu'on appelle des sorties de résidence, où à la fin de nos répétitions un peu entre nous, on ouvre au public, à un public bienveillant, disons, de venir voir un peu ces étapes de travail, quoi. Et du coup, demain, ce sera une première, enfin, ce sera pas la première, on avait fait une en octobre justement à l'MTA, j'étais venu pour en parler. Et là, ce sera une deuxième ici qui aura plutôt la forme, je pense, d'une lecture avec à la fois les comédiennes et puis le chœur. On va travailler ça et en même temps de le travailler dans l'espace public avec ce texte-là. Et ensuite, effectivement, il y en aura d'autres. On a une pause assez longue parce que moi, il faut que je me remette en écriture pour finir le texte. Ensuite, on ira sûrement à Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc vraiment en Camargue. Ensuite, on a aussi des résidents. Comme je dis, c'est ce projet-là, enfin, ces manières de travailler, disons, ça nous fait beaucoup voyager en France, quoi. Donc voilà, j'ai des partenaires, on va aller à Port-Saint-Louis-du-Rhône. J'étais dans les Pyrénées en janvier. On ira aussi à Rennes parce que moi, je suis basé à Rennes, donc on a aussi pas mal de résidences dans ce coin-là. Et voilà, tout un ensemble de résidences qui aboutiront en octobre 2026. Et j'espère qu'on viendra jouer par ici en juin 2027, peut-être pour les tentaculaires, on a le temps de voir.
Parce que du coup, l'appel à complices, vous allez devoir le faire à chaque fois. Ça va être toujours des nouvelles personnes qu'il va falloir former.
Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que pour moi, il faut que je trouve un code de jeu qui soit suffisamment simple pour le transmettre efficacement en une ou deux répétitions avant la représentation. Mais en fait, de même que je parlais de la fragilité dans l'espace public où il y a du vent, etc., la fragilité aussi de cette rencontre avec un groupe amateur, elle m'intéresse. En fait, ça crée quelque chose qui, pour moi, moi qui m'inspire pas mal de rituels qu'on peut voir à travers le monde où, en fait, plein de gens se retrouvent pour faire quand même une sorte de méga spectacle où ils n'ont pas beaucoup répété, mais ils y vont à fond, quoi. C'est un peu ça aussi qui m'intéresse, cette fragilité-là qui, en même temps, vient nommer autre chose. Et puis, ça permet aussi de voir d'autres personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur une scène, parce que les comédiens, comédiennes bénévoles, amateurs, c'est pas les mêmes que ceux qui sont professionnels, et c'est intéressant aussi de voir plusieurs corps, plusieurs voix sur un plateau, quoi.
Pour les questions pratiques, combien de places sont disponibles demain pour venir voir dans l'espace public ?
C'est dehors, il y a de la place, venez, c'est gratuit.
C'est important de le préciser que c'est gratuit, il y a de la place, c'est à 19h30.
Oui, rendez-vous à la MTA à 19h30 au 8 rue des Majots.
Un petit mot pour terminer.
Venez.
Merci à tous les deux.
Merci
et bonne répétition. Merci. Du coup avant le jour J,
oui,
finalement.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter 17 de Lady Tron. Pour continuer l'émission, Benjamin, tu as repéré une actu du côté de Corbie.
C'est exact, c'est le retour de la foire de Pâques à Corbie, le lundi 21 avril. Cet événement commencera dès 11h dans le centre Vril, pour les petits mais aussi pour les grands. Le messager corbéen inaugurera les festivités par une animation. C'est à partir de ce moment que la ville se transformera en un véritable terrain de jeu. Au programme de la journée, une foire aux plantes où vous pourrez y découvrir de nombreuses variétés, mais aussi retrouver également des points de vente, d'échange et de dons de graines. Il y aura également un atelier de création de nichoirs organisé par les agents municipaux pour les plus petits. Vous ne retrouverez pas seulement la foire aux plantes dans les rues de Corbie, elles seront également occupées par un marché local et une raiderie organisée par le club de handball. Ce sera donc l'occasion d'aller découvrir des produits locaux, mais également de dénicher votre prochaine pépite décorative. Il y aura également un stand de restauration, de quoi se remplir le ventre entre la zone rétro gaming, où vous retrouverez fléchettes, babyfoot et des bandes d'arcade, et la zone automobile où les amateurs d'automobiles du groupe AMC 3V se retrouvent pour exposer les anciennes voitures, de quoi faire un vrai retour dans le passé. Et pour les amateurs de photos, la nature sera à l'honneur avec le concours de photos Flore Sauvage. L'inauguration de l'exposition se tiendra dans le parc de la mairie à 11h30. Et pour finir, avec la foire de Pâques de Corbie, un spectacle est organisé pour les 30 ans du groupe Bidon.
Tu as aussi une activité pour les parents étudiants.
Tout à fait, le Crous Damien Picardie s'associe avec l'Orchestre de Picardie afin d'offrir aux étudiants parents un atelier pas comme les autres, une immersion musicale pour les tout-petits pendant 30 minutes. Durant l'atelier, les enfants seront invités à découvrir les sons, à les écouter, ressentir et parfois même les créer. Les musiciens de l'orchestre en duo ou en solo inviteront les enfants afin de leur organiser un concert miniature. Rendez-vous à la salle d'activité résidence BIB, avenue Paul Claudel à Amiens, le 24 avril où deux séances vous seront proposées, la première à 10h et la seconde à 10h45. Pour cette session, ce sont Maryse Steiner au hautbois et François Garraud à la flûte qui organiseront l'atelier. Et pour finir les actus du jour, rendez-vous le 18 avril à la Lune des Pirates pour une soirée organisée par Cité Carter à 20h30 ce vendredi. Au programme Obi-Wan Way, présent sur scène depuis plus de 30 ans, il a enchaîné les scènes et collaborations par exemple avec Joystar, Boostaflex, Al Capote ou encore Mike Taylor. Vous retrouverez également à ses côtés Eike, un artiste de l'univers boom bap des années 90. Il vous plongera dans son flow rythmé et énergique tout en vous proposant une vraie présence sur scène. Et pour finir avec cette line-up, le beatmaker chanteur de hip-hop et de reggae Malos sera également de la soirée. Il a déjà réalisé des collaborations marquantes, notamment avec Seth Gecko, Jackie Boom et Danny Dan. À cette soirée, vous retrouverez trois artistes, trois univers pour célébrer la scène locale. Pour assister au concert, il n'y aura pas de réservation possible. Vous devrez vous rendre directement à la Lune des Pirates et vous acquitter d'une entrée de 5 euros. Et pour les adhérents, un tarif réduit vous sera proposé.
Merci Benjamin pour toutes ces infos et merci à Colline, Léa et Guillaume pour l'interview du jour. Voilà, Info Club Sandwich est déjà fini. On se quitte en musique avec la chanson New Slang de The Chins. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens. Thank you.
slang when you notice the stripes that did in your pride. Hope it's right when you die. Old and bony dawn breaks like a bull through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd have jumped from my trees and guided and danced like the king of the eyesores. The rest of all eyes would have been Godspeed, all the beggars are done. They all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to find.